Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Richard Tipin, bonjour, vous êtes le directeur général de Barnes. On s'est retrouvé ce matin à la Maison Boissière pour une conférence de presse donc sur le premier trimestre 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va le marché parisien avec ces taux qui se stabilisent ?
Oui, bonjour. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ce début d'année 2025, donc on va dire les quatre premiers mois de janvier à avril, marque une rupture avec la fin d'année 2024 qui est très claire. D'une part, vous avez une relance de la dynamique puisque nous sommes sur une tendance d'activité à plus 37% sur ces quatre premiers mois par rapport aux quatre premiers mois de l'année 2024. Et on peut dire aussi clairement que sur Paris intramuros, la baisse des prix qui était inévitable et heureusement qu'elle a eu lieu, qui est de l'ordre de 10% sur un an et demi, deux ans, elle est terminée, en tous les cas pour nous, puisque bon, sur les quatre premiers mois, on voit une espèce de petite progression de 2%, mais qui n'est pas sans doute ni statistique ni représentative, elle est juste significative de la fin de la baisse des prix.
Alors, baisse des prix, on l'a vu, mais pas partout, hein, et pas sur tous les biens, donc pas dans tous les arrondissements et pas sur tous les biens.
Absolument. Disons que bah d'abord il y a eu une baisse des prix générale hein, jusqu'à septembre, on va dire 2024. Mais là il y a des arrondissements qui repartent beaucoup mieux que d'autres. Globalement ils repartent bien tous. Vous avez quelques-uns qui souffrent encore parce que les propriétaires qui ont acheté il y a 3-4 ans à des prix très élevés. Je rappelle que 2021 et 2022, c'était des années où les taux d'intérêt étaient tellement bas que l'argent n'avait pas de valeur et qu'on achetait un peu de tout à n'importe quel prix. Donc ces propriétaires-là, aujourd'hui, et surtout ceux qui ont bénéficié de cette hausse des prix très forte, je parlerai de la région parisienne, hein, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, sont des maisons qui se sont vendues à des prix très élevés en 2022-2023, post-Covid. Ceux-là ont du mal à baisser les prix et on repart plus difficilement sur ces secteurs. Donc les Yvelines et Hauts-de-Seine, de façon générale, ça a été plus compliqué. Ça va beaucoup mieux du côté de Saint-Germain-en-Laye, donc les Yvelines Nord. Ça va beaucoup mieux du côté des Hauts-de-Seine-Nord, c'est-à-dire tout ce qui est Asnières, Bois-Colombes, Colombes, etc. Neuilly n'a jamais vraiment souffert de la crise, à mesure où c'est un secteur très privilégié, un peu à part. Mais du côté des Hauts-de-Seine, Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, même Boulogne, là, ce sont des secteurs qui repartent beaucoup plus difficilement.
Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que le marché du luxe se décroche du marché classique, parce qu'on le voit là dans la presse, hein, c'est vrai que ça va pas aussi bien sur le marché classique, ça repart pas, même si certains parlaient d'un léger retour des acquéreurs, c'est pas le cas. Est-ce que on assiste vraiment à un décrochage du luxe versus le classique?
Bah absolument, on peut considérer que nous, la moyenne des biens que nous vendons chez Barnes à Paris est de 14 000 euros le mètre carré, lorsque à Paris vous êtes un petit peu en dessous de 10 000 euros, donc il y a vraiment deux marchés. Le marché du luxe, c'est pas facile à définir, hein, parce que ça concerne surtout une clientèle qui a un peu plus les moyens que les autres et qui est sans doute un peu moins sensible aux taux d'intérêt. Donc lorsque les taux d'intérêt redescendent à 3% et que les prix ont baissé de 10%, ce qui est le cas depuis deux ans, on peut considérer qu'une frange de la population qui est plutôt un peu plus aisée, qui est celle qui nous concerne sans doute, repart plus volontiers dans l'acquisition de biens immobiliers que ceux qui sont encore peut-être très limites et très, très dépendants des taux d'intérêt.
Et alors vous qui êtes présent aussi dans d'autres endroits en France, hein, sur la Côte d'Azur, est-ce que le luxe sur le littoral, le luxe à la montagne, connaît la même attractivité ?
Alors je crois que là on peut distinguer deux secteurs. Le secteur de la résidence principale. Et là, le luxe repart fortement parce que ceux qui se sont retenus pendant deux ans, alors qu'ils ont eu des enfants, alors qu'ils se sont mariés, alors qu'ils ont divorcé, etc., ceux qui se sont retenus dans leur projet aujourd'hui, vraiment ont envie d'y aller. Donc la résidence principale repart très fortement. Pour ce qui concerne la résidence secondaire, où on n'est jamais vraiment obligé ni d'acheter ni de vendre, là c'est un peu plus compliqué. Donc les endroits où vous avez des résidences secondaires peuvent redémarrer de façon un peu plus lente qu'à Paris. Néanmoins, ce qu'on peut constater, nous, c'est qu'il y a pas mal de secteurs très haut de gamme, comme la Riviera, ou même vous parliez de la montagne, où là, ceux qui ont beaucoup de moyens, finalement, ne sont pas gênés par la crise et l'activité n'a jamais vraiment souffert. Mais là, on parle donc de segments au-dessus de 3-4 millions d'euros.
Qui sont les acheteurs à Paris? Est-ce que ce sont des étrangers, des Français? Et aussi, deuxième question, la mairie de Paris hein, veut faire la chasse aux résidences secondaires. Est-ce que ça va perturber votre business, je pense, aux étrangers qui achètent pour avoir un pied-à-terre, justement?
Alors, la chasse à la résidence secondaire, ça s'est déjà passé en région, en l'occurrence sur la Côte Basque. Il y a eu une interdiction d'acheter pour louer, entre guillemets, en location saisonnière. Donc là, ça a freiné largement le marché. À Paris, il faut voir ce que ça donne. Hein. Concrètement, quelles sont les mesures qui risquent d'être prises? Pour l'instant, on ne va pas s'inquiéter parce que c'est... il y a beaucoup à faire, c'est un territoire immense Paris, donc je vois pas comment elle pourrait, comment une décision pourrait bloquer quoi que ce soit.
Et pour les acheteurs aussi, qui sont vos acheteurs, quels sont le profil en tout cas des étrangers, des Français, quelle nationalité?
Là on parle du haut de gamme, allez, on parle du très haut de gamme même. Pour le très haut de gamme, on peut dire que vous avez des acquéreurs qui sont, je dirais, 40% étrangers et 60% français. Et quand je parle des acquéreurs, ce sont ceux qui se sont positionnés pour acheter chez nous. C'est-à-dire qu'on a un fichier avec beaucoup d'acquéreurs potentiels. Mais en l'occurrence, lorsqu'on a un très beau bien à vendre, et qu'on souhaite le vendre correctement et relativement vite, ne l'achètent que ceux qui sont présents. Donc vous avez quelques Français qui vont arriver, qui vont le voir, qui vont faire une offre, et puis vous avez les étrangers qui sont peut-être très loin, et le temps qu'ils arrivent, finalement l'offre elle sera passée. Donc en réalité, il y a une différence entre le portefeuille d'acquéreurs, où là vous avez je sais pas, un tiers d'étrangers, et le réel portefeuille d'acquéreurs qui ont acheté, et là pour le coup vous n'avez que peut-être que 10% d'étrangers qui ont réellement acheté.
Merci beaucoup Richard Tibine pour cette interview.
Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.